Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
Pour commencer, un doute scientifique dans le Figaro.
À propos du glyphosate, vous savez, cet herbicide produit par le géant américain Monsanto qui divise l'Europe, on doit encore en débattre en Europe la semaine prochaine. L'Organisation mondiale de la santé qualifie le glyphosate de cancérigène depuis 2015, mais justement, une étude, s'interroge le Figaro, dédouanerait le glyphosate. Elle a été publiée le 9 novembre dernier dans le Journal of the National Cancer Institute, l'Institut national du cancer américain. Les chercheurs ont suivi pendant 20 ans plus de 54 000 agriculteurs dans l'Iowa et en Caroline du Nord. Et ils ont comparé l'apparition de cancer chez ceux qui utilisaient le glyphosate et chez ceux qui n'en utilisaient pas. Constat final, le nombre de cas de cancer était sensiblement le même au sein de tous les groupes, dit le Figaro. Conclusion de l'étude, on peut la lire sur Internet. Il n'y a pas d'association apparente entre le glyphosate et l'apparition de tumeurs. Seul bémol pour être complet, il y aurait chez les agriculteurs les plus exposés au produit un risque éventuel supérieur de leucémie, mais il faudrait poursuivre les recherches. Donc Nicolas, on ne sait pas encore. On ne sait pas, et ce doute en lui-même est énorme, tant il contredit tout ce qui s'est imposé en France sur la malignité du produit. Il est intéressant de voir le Figaro se couvrir, se barder de précautions au moment où il affronte une évidence majoritaire. Le journal dit que l'étude n'est financée que par des organismes publics, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, que le journal de l'Institut est une revue sérieuse. Et le Figaro s'interroge encore. Cette étude serait-elle une machination montée de toutes pièces par Monsanto ? Non, elle ne l'est pas. Mais précisons Nicolas, cette étude fait quand même partie de la panoplie des arguments de la firme américaine depuis un moment. On en parlait de cette étude avant sa publication. Les avocats de Monsanto ont reproché à l'Organisation mondiale de la santé de l'avoir ignorée en 2015 quand le glyphosate était décrété cancérigène. Polémique qui a été racontée au mois de juin dans un très bon article de l'agence Reuters que nous n'avons pas lu, qui est passé inaperçu. Maintenant, l'étude américaine est publiée. Que va-t-on en faire ? Douter, c'est épuisant, mais on peut douter en lisant le Figaro.
Les embarras de Merkel, Madame Merkel, Claude, domine les journaux.
La chancelière qui chancelle, Libération. Merkel joue sa survie, le Figaro. Merkel rejette les rumeurs de démission, le Financial Times. Et partout, des photos de Angela Merkel, moutie dépitée. Mais, dit l'Alsace, Merkel ne lâche pas. Voilà, on lit dans tous nos journaux la stupéfaction qui nous saisit devant l'improbable parce que la chancelière allemande est une icône. Sa réponse à la crise des réfugiés a fait d'elle un symbole global, dit le Financial Times, la plus puissante des défenseurs d'un ordre mondial libéral. Conclusion du journal britannique, ce qui lui arrive est mauvais pour l'Europe et pas bon pour Emmanuel Macron, dont les ambitions européennes se retrouveraient bloquées. Ça, c'est le point de vue libéral. Vous allez le retrouver dans l'opinion avec un dessin parfait. On voit M. Macron et Mme Merkel en champion de patinage artistique au moment où Merkel glisse. Illustration Zwip. Zwip, c'est le bruit du patin qui glisse dans ce dessin de l'opinion. Au moment du doute, Zwip, mais après elle se redresse.
8h35, merci d'écouter Inter. On poursuit cette revue de presse avec une affaire de délation, Claude, dans la Voix du Nord.
Mais une joyeuse délation, Nicolas. La délation vécue comme un jeu d'entreprise pour le bien et la sécurité des salariés. Ça se passe chez Amazon, dans le monde moderne et dans le Lowen Park, un parc d'activité près de Douai, où Amazon, nous révèle la Voix du Nord, organise un Safety Fun Game, un jeu amusant de sécurité dans le cadre du Peak Fest, la fête du pic d'activité. Comme le dit la Voix d'Homme du Nord, quand on travaille chez Amazon, il vaut mieux maîtriser l'anglais. Règle du jeu hyper simple, je cite, « Cumuler les good points à chaque action non-safety de la part d'un general manager, d'un lead ou d'un manager. » Traduction, hein. « On obtient des bons points en dénonçant les encadrants qui manqueraient aux consignes de sécurité. Le salarié qui aura le mieux dénoncé aura un cadeau. » Oui, c'est dans les affiches d'Amazon. La CFDT parle de la délation organisée. Pas du tout, répond l'entreprise. C'est l'esprit d'Amazon qui encourage la communication entre salariés et managers. C'est ludique et bon enfant. Et paraît-il, les salariés se prêtent déjà au jeu. Voilà, on pense à Amazon et à ses employés ludiquement infantilisés. Quand on découvre la une du Parisien aujourd'hui en France sur l'optimisme des jeunes, ils en ont du mérite, les jeunes. Ils sont 78%. C'est l'étude d'un think tank qui s'appelle Vers le Haut, think tank libéral. 78% donc des jeunes à être optimistes pour leur avenir. Parole de Sybille et Nicolas, jeunes diplômés qui ne travaillent pas encore mais qui y croient. C'est un peu le monde des possibles. Quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Non, le dossier du Parisien n'est pas béat. Il veut décrire finement une France qui est en train de sortir de son pessimisme, peut-être, et qui va vaincre, qui sait, ses démons. C'est une tendance qu'on retrouve dans la presse et elle est aussi forte que la déprime des maires. Par exemple, Le Monde s'interroge sur deux bonnes pages. Est-ce la fin du désert français, cette vieille prééminence de Paris ? La province, dit Le Monde, veut attirer les start-up ? Il faut que les financements suivent. Tiens, à Montpellier, c'est dans Midi Libre. Le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, acte le renouveau provincial. Il va lancer, décidément, quelle infantilisation, des bacs à sable, des sandbox en anglais. Ce sont des zones où la réglementation est assouplie pour permettre l'éclosion des start-up. On a envie d'être jeune, Nicolas, et de jouer au bac à sable contemporain. Mais en même temps, dans l'humanité, vous lirez les aventures de Simon, docteur en thésard à Centrale Supélec, hein, parmi la fine fleur des ingénieurs français. Il avait été choisi par son école pour donner des cours à des étudiants plus jeunes. Il n'était pas payé suite à une erreur administrative et un manque d'intérêt pour les vacataires.
Et un monstre, enfin, Claude, dans Libération.
Qui témoigne d'un autre temps, quand une autre jeunesse américaine, celle-là, se nourrissait de fleurs, de drogue, de musique et de rêves enchantés. Mais lui, ce monstre a fait tourner le rêve à l'horreur. C'est un long, très bon, très nourri portrait de Charles Manson qui vient de mourir, ce petit homme inventeur d'une secte hippie qu'il appelait la famille, qui voulait devenir vedette du rock californien, mais qui, dépité, envoyait ses adeptes assassiner ceux qu'il appelait les porcs, les pigs, des blancs riches de la belle Californie, et parmi ces pigs, la belle Sharon Stone, l'épouse de Roman Polanski.
Sharon Tate.
Léa Salamé me couvre, je ne sais plus où mettre, Sharon Tate. C'était en 1969, Manson, par Libération, réinscrit dans son époque, quand l'optimisme était un dogme. Depuis, les Américains achètent des armes pour de se protéger. On n'en a pas fini. Mes excuses encore aux fantômes.
Merci. Merci Claude Askolovitch.